Je ne regrette rien, une série en 6 épisodes sur la vie, l'œuvre et la carrière d'Édith Piaf. Au cours du 4e épisode, nous avons suivi les amours tumultueuses de la chanteuse depuis la mort de Marcel Cerdan jusqu'à son mariage avec le fantaisiste Jacques Pills. Il fut question aussi de ses problèmes de santé et des cures successives de désintoxication. Dans le 5e épisode, les questions de santé deviennent de plus en plus gênantes, mais ne l'empêchent pas de devenir la plus populaire chanteuse française en Amérique. Cinquième épisode.
Vous ne trouvez pas que dans la vie, on a tendance à critiquer son prochain, c'est-à-dire que on a tendance de le voir à travers soi, ce qui est un tort. Puis on a tendance aussi à le juger, parce que on n'est souvent pas passé par où il est passé, et des fois on ne choisit pas ni sa famille, ni l'endroit où on est, ni les choses qui vous arrivent, n'est-ce pas et qui vous oblige parfois à prendre un chemin qu'on n'aurait pas voulu prendre, et puis qu'on admet parce qu'on est bien obligé de l'admettre. Alors, on médit, on dit ci, on dit là, on lui fait un petit costume au petit copain. Puis ça nous arrange bien, en même temps ça excuse nos défauts. Alors, j'ai pris pour habitude maintenant, surtout depuis que j'ai été malade, de me dire, mais qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ?
C'était un extrait de l'album Tête à tête, enregistré au début des années 60. À l'automne de 1954, Piaf reprend ses activités à un rythme effréné. Le cinéaste Jean Renoir lui propose une participation dans son film French Cancan, racontant l'histoire d'Eugénie Buffet, interprète des œuvres d'Aristide Bruand et de Théodore Botterel, dans un décor de la Belle Époque. Piaf devait y interpréter la complainte de la butte, mais c'est la voix de Cora Vauquer qu'on entend. Renoir a rassemblé une distribution exceptionnelle pour ce film, et Édith, à cause de sa notoriété, touche un cachet mirobolant. Séduite par quelques nouveaux titres qu'on lui propose et surtout par quelques nouveaux jeunes auteurs, sur une musique de Philippe Gérard, Jacques Larue signe une chanson sur le thème de l'incommunicabilité entre deux jeunes que la vie a trop tôt durci, avec ce soleil.
Avec ce soleil, on avait envie de ne pas parler, de boire la vie à petites goulées sous le ciel superbe. Le long du talus, mâchant un brin d'herbe et jupe collée, elle regardait d'un air triomphant ce jeune homme imberbe, ou encore presque enfant qui la désirait. Il aurait fallu presque rien, peut-être un geste de lui, un sourire d'elle qui lui dise viens. Il aurait fallu presque rien, peut-être qu'un oiseau s'enfuit avec un bruit d'aile pour que tout soit bien. Pour que par-dessus le toit de l'usine, le long des murs gris, pour que par-dessus la route voisine et ses pavés gris, pour que par-dessus toutes les collines, pour que par-dessus toutes les forêts, pour que monte au ciel sans cloche et sans noce un amour de gosse qui purifierait.
À 39 ans, Édith Piaf semble avoir vécu trois vies, écrit Robert Bellerey dans Piaf, un mythe français. Au sommet d'une carrière que les épreuves, les accidents, les cures de désintoxication ont commencé à ralentir, usée par une vie trépidante, la star est encore loin de s'avouer vaincue. En ce début d'année 1955, elle prépare son entrée à l'Olympia que son ami Bruno Cocatrix a racheté l'année précédente. Salle mythique s'il en est à Paris, construite sur un ancien site de fête foraine, la salle de 2000 places boulevard des Capucines fut inaugurée en avril 1893. Fermée pendant la Première Guerre, la salle est dédiée à la chanson après 1918, puis désertée au moment de la crise de 1929. L'Olympia se transforme en cinéma jusqu'en 1954, l'année où la société propriétaire du fonds de commerce de l'Olympia finance intégralement la sonorisation moderne et engage Bruno Cocatrix comme directeur dont le mandat est de rendre la salle à la chanson où seront consacrés la plupart des grands noms de la chanson française, mais pas uniquement. D'autres y viendront aussi, dont les Beatles, les Rolling Stones et de nombreux Québécois. Piaf y présente son tour de chant, fait de chansons connues et de nouveautés, dont une pièce que viennent d'écrire deux jeunes passionnés de littérature et de poésie, Michel Senlis et Claude Delécluze, mise en musique par Marguerite Monod, qui la présente à Piaf. Celle-ci veut rencontrer les auteurs à qui elle demande de faire certaines modifications à leur texte, ce qu'elle refuse. Piaf les renvoie en disant qu'elle allait y réfléchir, et réflexion faite, elle adopte la chanson telle qu'écrite, et ça réussit. C'est à Hambourg.
C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. C'est à Hambourg, à Santiago, à Rotterdam ou à Frisco. Hello boy, you come with me, amigo, te quiero mucho. Liebling, come dormit mir. C'est à Hambourg, au ciel de pluie, quand les nuages vont à pas lents, comme s'en vont les lourds chalands, le long des quais crevant d'ennui. C'est à Hambourg, ou bien ailleurs, qu'à tous les gars en mal d'amour, qu'à tous les gars depuis toujours, moi, je balance du rêve en plein cœur. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. C'est à Hambourg, à Santiago, à Rotterdam ou à Frisco. C'est à Hambourg, au ciel de pluie, qu'il a posé ses mains sur moi et qu'il m'a fait crier de joie en me serrant fort contre lui. M'a dit, je t'aime à plus finir, laisse dans la tout est marin, laisse dans la mer et puis viens, moi j'ai du bonheur à t'offrir.
Au début du mois de mars, Edith et son équipe quittent la France pour une tournée en Amérique qui va durer 14 mois. Toujours mariée à Jacques Pills, une relation sur le déclin, Piaf, qui connaît l'art de compliquer ses amours, associe à cette tournée incognito son nouveau parolier, Jean Dréjac. Début avril, elle écrit à son confident Jacques Bourgeois et lui fait une étonnante demande, de l'information sur l'ordre des Rose-Croix auquel elle s'intéresse. Robert Bellerin.
Ben, elle a été toujours travaillée par l'au-delà, par le mysticisme. Donc, je vous parlais du miracle qu'elle attribuait à Sainte Thérèse de Lisieux pour avoir retrouvé la vue. Bon, on sait ce qu'il en est. Mais elle a toujours été, elle a eu un rapport toujours avec Dieu, avec la transcendance, très intense. D'ailleurs, dans ses chansons, sans arrêt, elle invoque Dieu. Dans ses lettres, elle invoque Dieu en permanence. Et les Rose-Croix, c'est intervenu au milieu des années 50, sous l'influence de son accordéoniste, Marc Bonnel, et de sa secrétaire, qui était l'épouse de l'accordéoniste, qui étaient tous les deux Rose-Croix. Et du coup, elle a trouvé ça intéressant.
En mai, le couple Piaf et Pills viennent à Toronto et à Montréal, où vit la demi-sœur Denise Gassion. Ils sont reçus à l'hôtel de ville par le maire Jean Drapeau, qui les fait citoyens d'honneur. Pills retourne à Paris, et c'est avec Dréjac, qui sort de l'ombre, qu'elle vient à Québec du 26 mai au 4 juin 1955. Piaf enthousiasme le public du chic cabaret La Porte-Saint-Jean, l'une des boîtes de Gérard Thibault à la Haute-Ville de Québec. Après une nuit au château Frontenac, la chanteuse veut habiter en ville dans un appartement, plus discrètement avec son amant Dréjac, à qui l'on doit les paroles de cette magnifique chanson « Sous le ciel de Paris ».
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter.
Gérard Thibault, pris au dépourvu des appartements meublés à Québec en 1955, c'est rare. Il fait appel à son réseau d'amis et de connaissances et propose, pour le grand bonheur de l'artiste, une maison sur la rue Murray, appartenant au docteur Louis La Rochelle, qui part en voyage. Piaf donne deux récitals par soir, à 21h et à minuit. Que fait-elle du reste de ses journées à Québec? Jean-Marie Lebel.
On sait qu'elle a fréquenté un grand restaurant de Québec qui, à l'époque, était le Kérulu, qui était dans la cour de la fabrique, qui avait été fondée par un Breton, Joseph Kérulu. À l'entrée, il y avait une pâtisserie, et là, il y avait un grand escalier qui nous menait à un deuxième, où là, il y avait un restaurant très, très réputé. Et puis, un restaurant un petit peu d'avant-garde. C'était comme un endroit à se retrouver. Et puis, Edith Piaf était très bien à ce restaurant-là. Et puis, il y avait une cuisine française qui était là, puis des bonnes pâtisseries. On sait aussi qu'elle est allée à la cathédrale. C'est que quand on entre dans la basilique cathédrale, du côté gauche, en l'entrant, là, sur le premier grand pilier, il y a une statue de Sainte Thérèse, de l'enfant Jésus, ou Sainte Thérèse de Lisieux. Et ça, c'était la grande dévotion. Ça, c'était la grande dévotion d'Édith Piaf à Sainte Thérèse.
Elle fut reçue à l'Hôtel de Ville de Québec par le maire Wilfrid Hamel pour y signer le livre d'or et au consulat français. Des témoins racontent l'avoir rencontrée dans les rues du Vieux-Québec ou encore sur la terrasse du Frein. La ville semble lui plaire et, en échange, pour l'accueil chaleureux de Gérard Thibault, elle lui accorde la faveur de chanter à l'heure du thé, le samedi après-midi, pour les dames bourgeoises de Québec. En somme, un séjour remarqué, mais surtout apprécié, tellement qu'elle reviendra l'année suivante, en 1956. Après Québec, Washington, New York, Chicago, Los Angeles, où elle fréquente tout le gratin d'Hollywood, de Marlon Brando à Charlie Chaplin. Tout l'automne au Versailles, un crochet à Montréal du 11 au 18 décembre au cabaret El Morocco dans l'ouest de la ville. Pendant la période des fêtes qui suit, elle prépare fébrilement ce qui sera un des sommets de sa carrière, le Carnegie Hall. 2800 spectateurs, 22 chansons au programme, dont cette adaptation d'une chanson américaine de type rhythm and blues qu'interprétait le trio vocal de Cheers, inspiré de la performance de Marlon Brando dans le film « L'équipée sauvage ». L'homme à la moto.
He wore black denim trousers and motorcycle boots and a black leather jacket with an eagle on the back. He had a hot popsicle that took off like a gun. Fool was the terror of Highway 101.
Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait. Les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême. Et juste à l'intérieur, on lisait « Maman, je t'aime ». Il avait une petite amie du nom de Marie-Lou. On la prenait en pitié, une enfant de son âge, car tout le monde savait bien qu'il aimait tant en retour sa chienne de moto bien davantage.
Le lendemain de son triomphe au Carnegie Hall, Piaf et sa troupe s'envolent pour Cuba. Avant la Révolution, la Havane était une ville ouverte. C'est un premier pas dans l'Amérique hispanophone. Mexico au mois de février, où elle offre une version en espagnol de La vie en rose et de l'hymne à l'amour. Rio de Janeiro en mars et avril, Sao Paulo en mai, juste avant de rentrer à Paris après 14 mois d'absence. Du 14 juin au 12 juillet, retour à l'Olympia, où elle crée Les Amants d'un jour de Michel Sandlis et Claude Delécluze. Pour cette chanson, Piaf utilise, geste inhabituel, des accessoires, un tablier blanc de serveuse, un linge de vaisselle à la main. C'est la complainte de la plongeuse qui observe les grands et petits drames de la vie qui défilent devant elle. Un verre à pied en cristal qu'elle laisse tomber à la fin de la chanson, dont le fracas accentue l'effet dramatique. Les amants d'un jour.
Moi, j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins portant le soleil. Ils ont demandé d'une voix tranquille un toit pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air attendri la chambre d'hôtel au papier jauni. Et quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait tant de soleil au fond de leurs yeux que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal.
Après avoir officialisé la rupture avec Jacques Pills, Edith repart en septembre pour New York, une tournée de presque 12 mois, 7 semaines au Versailles, retour à Québec du 16 au 25 novembre 1956, deuxième présence au Carnegie Hall en début d'année 1957. En mars, c'est l'Argentine, Buenos Aires. Et elle aura donc conquis toute l'Amérique avant d'entrer à Paris au mois d'août. D'Argentine, elle rapporte une mélodie qui l'a enchantée et dont elle a acquis les droits. Une chanson créée en 1936 par deux Argentins inspirés d'une valse péruvienne. Elle confie à son nouveau parolier, Michel Rivegauche, de mettre des paroles sur cette musique. En quelques jours, il crée une chanson qu'Édith Piaf élèvera au rang de chef-d'œuvre dramatique. La foule.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux.
Après le succès de cette adaptation française, la version originale a été remise à la mode sous le titre de Amor de mis amores. Edith réalise enfin un rêve, une propriété de campagne pour le repos et la détente près du massif forestier de Rambouillet. Les amis y sont aussi envahissants qu'à Paris. Pour la rentrée d'automne de 1957, la maison de disques Pathé Marconi organise un cocktail au Fouquet sur les Champs-Élysées, où elle fait la connaissance de Félix Martin, dont elle n'aime pas vraiment le répertoire, mais, comme toujours, le type lui plaît. Son style décontracté, son allure photogénique sont des avantages sur lesquels Piaf compte pour faire de cet homme, lui aussi marié et père d'une fillette, une vedette de la chanson, du cinéma et aussi son amant. Le succès fut mitigé dans tous les domaines. Les amours de Piaf se compliquent au rythme où elle accumule les succès. Au début de l'année 1958, elle vient de terminer le tournage du film « Les amants de demain », considéré comme un navet tant pour le scénario, la réalisation que pour le jeu des comédiens. Ce sera d'ailleurs son dernier film. Fin janvier, Bruxelles. Elle craque en terminant l'accordéoniste au moment où elle clame « Arrêtez la musique ». Ce fut comme un cri de grâce suivi d'un léger vertige. Elle dut s'appuyer au piano. Rendue dans la loge, une crise d'hystérie et de larmes qui ne peut être attribuée qu'à la fatigue. Ses amours tumultueuses en sont aussi la cause. En février 1958, elle fait un retour à l'Olympia avec Félix Martin dans la salle, artiste de la musique et de la chanson, personnalité des arts et des lettres, y sont plus nombreux que jamais. Martin plaît, Piaf est acclamé. Avec la foule, elle crée tout un effet de transe et impressionne quand elle ajoute une nouveauté, une chanson gaie, une sorte de nouvel hymne à l'amour, dont elle fera un autre succès. Mon manège à moi.
Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi.
À ceux qui croient que cette chanson s'adressait à Félix Martin ou son récent coup de cœur pour le directeur d'une galerie d'art, se trompent. Le hasard a fait que la chanson écrite pour un film de Jacques Tati fut livrée par erreur chez Piaf, qui se l'est appropriée. C'est à cette même époque qu'elle rencontre Georges Moustaki. Aussitôt, une complicité s'installe qui mènera à plus d'intimité. Né à Alexandrie, il n'a que 23 ans. Il a ce charme nonchalant des Méditerranéens qui séduit la chanteuse. Les alertes de santé se font plus fréquentes et l'on doit annuler chaque fois pour quelques jours. À Stockholm, le 28 mai, ce fut pire. En plein spectacle, Piaf est prise d'un malaise et s'effondre sur la scène. Elle refuse l'hospitalisation et le pronostic des médecins qui veulent l'opérer. Elle exige de rentrer à Paris sur le champ. Là, elle se remet vite de ce qui n'était qu'une crise éthylique. En juillet, la tournée d'été s'organise. Germaine Ricord, une amie qui lui survivra plus de 50 ans, fait partie de cette tournée et se souvient que si Piaf aimait rire et s'amuser, elle était difficile à vivre au quotidien et souligne qu'elle n'a jamais favorisé la carrière d'une femme. Elle n'a contribué qu'à faire briller des hommes, comme le jeune Moustaki, qui prend de plus en plus de place dans le répertoire de la chanteuse. Edith voulait une chanson qui évoque l'Angleterre des brumes, des pubs et des pavés mouillés, raconte Moustaki. Il l'a écrite d'un trait. Marguerite Monod en a signé la musique et Piaf a fait le reste. Milord.
Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur.
Alors que la troupe prépare la traversée vers New York au début de septembre, un accident de voiture, alors que Moustaki conduit l'Espiaf en si mauvais état que le voyage en Amérique est reporté à l'hiver 1959. Cette fois, ce n'est pas au Versailles qu'on attend la vedette, mais à l'Empire Room, le cabaret mythique du très, très chic Waldorf Astoria, sur Park Avenue. Arrivé à New York le 7 janvier, Piaf a plus de 2 semaines pour répéter, arpenter la ville et se présenter pour la énième fois au Ed Sullivan Show. Au début du mois de février, Moustaki veut rentrer en France. Piaf est en colère, hurle et pleure, invective et supplie. Comme l'ont fait Eddie Constantine, Louis Girardin, c'est lui qui rompt. Voilà ce que Piaf accepte mal. Cela a-t-il eu un effet sur sa santé? Le 16 février, au milieu de la chanson « Bravo pour le clown », prise de malaise, elle quitte la scène et en coulisses crache le sang. Le médecin appelé sur les lieux parle d'ulcère d'estomac hémorragique. Edith revient en scène le lendemain soir, mais 2 jours plus tard, elle s'écroule et, cette fois, la chirurgie s'impose. L'annulation des spectacles et le coût des chirurgies ruinent littéralement la chanteuse. Remise en mai, elle s'offre quelques contrats, dont l'un à Montréal, au début du mois de juin. Lors de ce passage dans la métropole, elle va faire un tour chez Bozo, une petite boîte à chansons, comme il commence à y en avoir au Québec, créée par Jacques Blanchette, Jean-Pierre Ferland, Clémence Desrochers, Hervé Brousseau, Raymond Lévesque et Claude Léveillé, qu'elle remarque et qu'elle invite à Paris pour y travailler avec elle. De Claude Léveillé et Michel Rivegauche, Ouragan.
Que toi, oui que toi, encore toi, toujours toi, partout toi, tout pour toi, tout par toi, tout de toi, tout en toi, tout à toi, avec toi, rien que toi, oui que toi, encore toi, toujours toi.
Source et documentation, Robert Belleray, Piaf. Un mythe français. Simone Berthaud, Piaf. Joël Montserrat, Edith Piaf. Edith Piaf, au bal de la chance. Prise de son, montage et mise en onde, Yannick Caron. Recherche, choix musical, texte et narration, Yves Houd.
Balayant le temps et jeté sur le rêve, moi je crie d'amour.